École normale supérieure, savoir en multimédia.
J'espère que je répondrai un petit peu à cette question sur la puissance particulière de la littérature dans un rapport aux formes de la vie, à ce qu'il y a de forme dans le fait même du vivant. Anne a parfaitement parlé de l'importance de la question de l'animalité dans la culture contemporaine et d'une série de questions dont cet intérêt témoigne, d'une sorte d'inquiétude concernant l'homme et ses pouvoirs, d'une interrogation sur ce qui se sépare dans le côtoiement de l'homme et de l'animal. Moi, je vais prendre les choses d'une façon légèrement différente, mais qui rejoint pour beaucoup cette sorte de pulsation empathie-esquive qui a été mise en valeur. À mes yeux, et puis disons dans la logique de mon travail à moi, l'intérêt pour l'animalité soutient aussi une autre pensée qu'une approche esthétique a seule la capacité de mettre en lumière. C'est la nécessité de faire attention aux manières de l'être, aux phrasés du vivant, au style, qui trouve dans le monde animal un champ d'expressivité infini. Donc c'est à cette dimension stylistique du vivant que l'animalité peut aussi nous ouvrir, et c'est à ça que je vais m'intéresser. Pour le dire simplement, je considérerais le style ici non pas comme une marque de distinction qui nous classe, comme une question cantonnée à la sphère artistique, mais je regarderais les styles et donc les espèces animales comme des propositions d'existence, des perspectives sur le monde qui sont partageables, qui sont en partie appropriables, en tout cas qui sont pensables. Et donc je vais vous proposer de regarder les espèces animales comme autant de manières d'être, donc non pas le style de l'animalité, mais les styles animaux, et le monde animal comme une foule de propositions d'être, une foule d'élancements stylistiques afin de mettre en lumière quelque chose comme une stylistique du vivre et de formuler la conviction que le réel s'anime en style, se découpe en style. Si chaque espèce est une manière d'être, alors c'est avec la leçon animale toute l'attention aux formes de la vie qui se rénove ou qui se recharge. C'est un slogan presque de la philosophie contemporaine, cette question des formes de vie. La nécessité de prendre pour objet les formes de vie est affirmée, nommée par la pensée actuelle, et depuis un bout de temps déjà en fait, depuis Foucault jusqu'à Agamben aujourd'hui. Mais il me semble que la littérature est le lieu d'une prise en charge de ces formes de la vie. La littérature ne sait pas seulement, si l'on peut dire, que la vie s'engage dans des formes, elle prend ses formes en responsabilité. Et c'est pour ça que c'est un lieu important où s'affûte une attention à la foule des manières d'être, aux façons d'habiter le monde et de lui donner sens. Donc, pour répondre un peu à contre-temps à la question qui venait d'être posée, il me semble que c'est cette capacité à restituer, à penser, à prendre en responsabilité les formes du vivant qui est le privilège de la littérature. Non pas son savoir, mais son privilège en quelque sorte moral. Ce désir de faire attention à cela dans la vie et de le prendre en charge. Alors je partirai d'une petite question qui était posée par le poète Francis Ponge. Je pense que tout le monde le connaît. Comment, demande Ponge, un oiseau apparaît-il dans la vie d'un homme ? Comment un oiseau apparaît-il dans la vie d'un homme ? Et Ponge répond aussitôt, comme une surprise dans le champ de sa vision. Comme une surprise dans le champ de sa vision. Et l'on imagine bien le passage comme ça, dans cette sorte de fenêtre perceptuelle qu'est notre regard à chacun, l'espèce de traversée d'un oiseau qui surgit effectivement comme une surprise dans le champ de la vision humaine. Et dans un très beau poème intitulé, justement, c'est pour ça que je l'ai choisi, « Dans le style des hirondelles », qui est issu de ce recueil, qui s'appelle « Pièces », qui fait partie d'un grand triptyque de Ponge intitulé « La grande lyre ». Donc dans ce poème intitulé « Dans le style des hirondelles », Ponge expose très très bien le surgissement de cette surprise visuelle et la force de cette apparition. Ponge décrit quelque chose comme le passage d'un style dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que voir passer un style dans le ciel ? Alors je le cite. Chaque hirondelle inlassablement se précipite, infailliblement elle s'exerce à la signature, selon son espèce, des cieux. Chaque hirondelle inlassablement se précipite, infailliblement elle s'exerce à la signature, selon son espèce, des cieux. Alors moi, c'est cette formule qui m'a intéressée, évidemment l'idée du précipité, mais aussi le sentiment que cet être-là, cette forme d'être-là, signe le ciel selon son espèce. L'hirondelle signe le ciel selon son espèce, voilà bien la définition d'un style d'être, d'un phrasé du vivant, qui s'écrit sous les yeux de celui qui regarde. Et Ponge précise en fait dans tout son poème les modalités de ce style. L'hirondelle, dit-il, trace sur le ciel sa signature avec une plume acérée, avec retournement en virevoltes aiguës, épingles à cheveux, glissades rapides, etc. Alors il faut un genre très particulier d'attention pour regarder de cette façon-là une forme du vivant comme un style, pour regarder un être qui passe comme une manière de se tenir dans le monde. C'est ça que Ponge regarde en fait, en regardant surgir ces hirondelles. Ces styles de l'être, le regard doit savoir les reconnaître, les identifier, et pour les reconnaître et les identifier, il doit en fait savoir les suivre, comme si nous pouvions nous imaginer les imiter. Parce qu'un style, et Ponge le figure très bien ici, ça n'est pas un tableau placé sous nos yeux, c'est une piste, un mouvement, quelque chose qui se répète, qui insiste dans le vivant. Le style des hirondelles, ici, c'est la forme caractéristique d'un certain vol, qui sera répété en fait de sujet à sujet à l'intérieur de cette espèce. C'est la forme caractéristique d'un élancement. Et l'identifier ou le comprendre, c'est devoir emprunter cette piste en pensée, la comparer à soi, l'éprouver comme un possible ou comme un impossible de soi-même. Et ici, le poème met très bien en valeur cette façon dont on se rapporte à l'élancement d'une autre forme d'être. Ponge, par exemple, à la fin du poème, fait dire aux spectateurs de ces hirondelles s'il nous fallait faire ce qu'elles font, s'il nous fallait faire ce qu'elles font, dans cette nécessaire projection qui seule fait la compréhension. Et il ajoute une petite remarque dans un autre recueil, dans des fragments intitulés « Notes prises pour un oiseau ». Il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons des aéroplanes. Il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons des aéroplanes. Voilà ce que c'est en quelque sorte que de porter un regard stylistique sur le vivant. C'est une façon de reconnaître chaque espèce comme une manière d'être, mais aussi de se reconnaître soi-même comme une manière d'être. Voir un style, l'identifier, c'est comprendre ce dont un autre est capable. Et c'est aussi la chance de s'éprouver soi-même comme une capacité, comme un possible. C'est restituer au vivre, en fait, son caractère de possibilité. Deleuze disait qu'une idée, c'est une flèche lancée par un penseur et ramassée par un autre. Ici, c'est la même chose, en fait. Puisqu'un style est une idée, j'insisterai là-dessus, un style aussi est une telle flèche lancée par le vivant, ramassée, relancée par celui qui veut bien le voir. Et ici, vous voyez que l'exemple de Ponge, c'est pas un hasard si c'est l'oiseau qui revient sans cesse. Il y a deux registres d'exemples privilégiés chez Ponge. C'est l'oiseau et la végétation, le mouvement de la végétation. Et ici, la figure de l'oiseau qui permet de mettre en avant ce mouvement du vol, disons, met bien en valeur ce sentiment qu'une forme devient pour nous une piste si on la comprend justement comme un possible de l'être. Par la figure du vol, une sorte de pelote d'existence tout autre, devient une piste. Le mouvement en direction d'autres directions que les nôtres. Son geste cesse d'être un spectacle pour devenir une pensée que nous pourrions former à notre tour. Alors un autre poète, Henri Michaux, a eu lui aussi ce genre de regard, c'est-à-dire cette capacité à saisir le réel comme un champ animé de style, un champ animé de possibilités d'existence, un champ animé de forme de vie. Mais à la différence de Ponge, alors je ne sais pas si vous êtes familier d'Henri Michaux, c'est le plus grand écrivain du siècle, donc il faut aller y voir. À la différence de Ponge, Michaux était surtout attentif à une sorte de guerre des styles, à la véritable guerre stylistique qui marque le côtoiement des êtres, c'est-à-dire des idées de l'existant ou des formules de l'existence. Donc il met sans cesse en avant des duels des espèces animales, tout comme les duels de peuples, dans un grand recueil intitulé « Un barbare en Asie » notamment, pour marquer la violence et la fragilité réciproque des êtres et des mouvements d'individuation, chacun se heurtant à l'autre pour se développer dans les caractéristiques propres de son individualité. Pour Michaux, les manières d'être ne se forgent qu'en se différenciant et elles se manifestent en particulier en couples rivaux, en postures ennemies. Donc c'est un regard stylistique, comme celui de Ponge, mais dans une autre morale des formes. Vous connaissez peut-être donc les grands récits de voyage de Michaux, notamment Équador ou Un barbare en Asie. Tous ces récits s'écrivent comme des duels de style. Et le voyageur est lui-même confronté à une sorte de crise stylistique lorsqu'il est secouru ou menacé par d'autres manières d'être, hein, celles auxquelles il a subitement affaire. Dans Un barbare en Asie, notamment, plusieurs séquences mettent en scène des combats entre deux espèces, ou au contraire des collaborations entre deux espèces, qui justement divisent le monde en style, en façon antagoniste de l'habiter, qui sont immédiatement identifiés d'un seul coup d'œil, comme on identifie une silhouette à sa façon de se mouvoir. Et Michaux a une très belle expression pour dire ce que c'est que d'identifier un style. Il appelle ça « mettre le doigt sur le centre ». Mettre le doigt sur le centre. Alors je vous lis un petit passage qui est une sorte de fable, d'apologue du singe et du cheval, pour comprendre ce que c'est que cette sorte de lutte d'individuation. Quand le cheval, pour la première fois, voit le singe, il l'observe, il voit que le singe arrache les fleurs des arbustes, les arrache méchamment, non pas brusquement, il le voit. Il voit aussi qu'il montre souvent les dents à ses compagnons, qu'il leur arrache les bananes qu'ils tiennent, alors que lui-même en possède d'aussi bonnes qu'il laisse tomber, et il voit que le singe mord les faibles. Il le voit gambader, jouer. Alors le cheval se fait une idée du singe, il s'en fait une idée circonstanciée, et il voit que lui, cheval, est un tout autre être. Le singe, encore plus vite, remarque toutes les caractéristiques du cheval qui le rendent non seulement incapable de se suspendre aux branches des arbres, de tenir une banane dans ses pattes, mais en général de faire aucune de ces actions attrayantes que les singes savent faire. Tel est le premier stade de la reconnaissance. Donc le premier stade, c'est cette sorte d'identification réciproque de l'autre comme une autre façon d'être et par conséquent de soi-même comme un phrasé de la vie. Ça n'est qu'à avoir identifié en l'autre une possibilité du vivant qu'on s'éprouve soi-même comme une possibilité du vivant, ce que peut un style. Mais Michaux continue, mais dans la suite, il se rencontre avec un certain plaisir. Aux Indes, dans les écuries, il y a presque toujours un singe. Il ne rend aucun service apparent au cheval, ni le cheval au singe. Cependant, les chevaux qui ont un tel compagnon travaillent mieux, sont plus dispos que les autres. On suppose que par ses grimaces, ses gambades, son rythme différent, le singe délasse le cheval. Quant au singe, il aurait du plaisir à passer tranquillement la nuit. Un singe qui dort parmi les siens est au contraire toujours sur le qui-vive. Un cheval, donc, peut se sentir vivre beaucoup plus avec un singe qu'avec une dizaine de chevaux. Donc voilà un petit apologue qui est cet exemple de guerre stylistique ou d'entre-appui stylistique. En tout cas, chez Ponge comme chez Michaux, c'est l'écriture qui est l'instrument de la découverte des manières de l'être, d'une certaine tenue dans la vie. Mais l'écriture est aussi le geste qui consiste à les relancer, à les reprendre en charge, à faire de ces formes des forces continuées. Ces démarches littéraires incarnent donc en tant que telles un goût puissant et actif pour les formes de la vie, une pensée stylistique du vivre. Des écrivains comme Ponge ou Michaux ont le goût des phrases infiniment différenciées qui animent le réel, ils ont l'œil pour cela, et chacun d'eux s'est penché sur le monde animal pour prendre en charge cette variété stylistique, pour la décrire, pour la penser, même si c'est dans des registres très différents, puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'on prend parti sur le style ou sur les formes de la vie, on prend aussi une sorte de partie éthique, plus générale, sur le réel. Alors, pour avancer un petit peu dans la définition de cet intérêt de porter un regard stylistique sur le vivant et souligner que ce n'est pas une esthétisation, enfin, il ne s'agit pas de dire en beau ce qu'on saurait par ailleurs de la façon dont s'anime la vie, mais que ça dit quelque chose de la dynamique même de la vie. Pour ça, donc, j'aimerais revenir rapidement aux œuvres de deux biologistes anciens. Alors, on en a déjà un petit peu entendu parler à travers Anne tout à l'heure. Deux biologistes des années 30-50. Le premier, c'est Adolf Portmann, P-O-R-T-M-A-2-N. Et le second, c'est von Hoeckel, Jacob von Hoeckel, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas que je sois spécialiste de ce domaine-là, mais d'une part, il est assez remarquable de voir ces noms revenir dans toute une série de domaines de la réflexion aujourd'hui, notamment en esthétique. Et puis d'autre part, à moi, ils me serviront d'appui pour expliciter ce que c'est que cette possibilité de porter un regard stylistique sur l'animal et plus généralement, à vrai dire, sur la vie. Vous l'aurez compris, la question de l'animalité étant peut-être pour moi un petit peu moins singulière que ce qu'a montré Anne, mais plutôt une porte ouverte sur une compréhension plus globale des formes de vie. Alors, les démarches de ces deux théoriciens de la vie animale sont un peu différentes. Celle de Portmann concernait la question de l'apparence. Je vais y revenir tout de suite. Et celle de Hoeckel concernait les modes d'habitation, la façon dont un être est attaché à son habitat, à son milieu, à son monde. Alors, Portmann, c'est un zoologue suisse. Enfin, je vous en conseille la lecture. Il y a quelques traductions en français, pour moi qui ne suis pas capable de lire l'allemand dans lequel il écrivait, qui s'est interrogé dans les années 50 sur ce qu'il appelait très explicitement la forme animale. Certains de ses textes ont été publiés surtout dans les années 60 dans le voisinage de Caillois, qui était cet écrivain dissident du surréalisme qui s'était justement penché sur la question des formes et d'une esthétique générale du vivant. Alors, quelles sont les thèses principales de Portmann ? Elles tiennent à l'idée d'une logique de présentation de soi, d'auto-présentation des espèces et des individus. Donc, c'est ça qui intéresse Portmann dans la question de l'apparence. C'est la façon dont une espèce expose une forme et dont chaque forme de vie est justement l'exposition d'une forme intense, singulière, sûre. Cette exposition d'une apparence ne correspond pas pour lui à l'extériorisation d'un donné organique, mais à quelque chose comme une inscription qui a valeur de forme. Donc c'est ça l'idée intéressante de Portmann. Parmi toutes ses fonctions vitales, l'organisme doit aussi apparaître. Parmi toutes ces fonctions, la vie doit aussi devenir image. Elle se donne dans un acte expressif. Paraître est une fonction du vivant. Alors, voilà une proposition intéressante quand on cherche à préciser ce que c'est qu'un regard stylistique sur la vie. Ce n'est pas exactement aux formes animales elles-mêmes que Portmann prêtait son attention, mais justement à leur nature expressive, à leur puissance expressive, à ce qui les transfigure en de véritables apparences. Ça change notre idée de l'expression, du sens qu'on peut donner aux formes. Et de ce point de vue, la pensée de Portmann a influencé Merleau-Ponty, qui a justement trouvé chez lui les moyens de préciser et même d'infléchir son idée de l'expression, en particulier dans les cours sur la nature, où Merleau-Ponty réfère explicitement à Portmann pour viser une nouvelle idée de l'expression. La forme animale, disait-il, traduisant et glosant Portman, disait Merleau-Ponty, donc, n'est pas la manifestation d'une finalité, mais plutôt d'une valeur existentielle de manifestation, une valeur existentielle de manifestation, de présentation. Et dans cette observation des images libérées ou risquées par tout vivant, libérées par le fait même de la vie, Portman insistait enfin, si on cherche toujours à préciser son idée de l'apparence, sur les enjeux propres à des images qui ne sont pas faites pour être vues, à ce qu'il appelait des apparences inadressées. L'une de ses originalités, en fait, a été de chercher à considérer l'intensité expressive d'un animal en dehors d'une pensée de la communication. Donc il ne s'agit pas par l'apparence qu'on donne à sa peau de manifester un message, par exemple, de menace ou de défense à l'égard d'autres animaux. Ces apparences sont inadressées. L'apparence ici n'est pas épuisée par une question de production de signaux défensifs, par exemple. C'est une intensité vitale. Le corps est aussi quelque chose qui apparaît, qui libère une image au dehors. Encore une fois, c'est la chance d'une stylistique du vivant. L'animalité ici devient une sorte de leçon sur l'apparence, une façon de comprendre ce qui associe le vivant à l'envoi d'une image, à un rapport entretenu avec beaucoup d'autres images qui façonnent le monde, qui instituent une vaste surface d'expression. Donc voilà un exemple des formes qui s'échangent dans la vie sensible. Un exemple parce que l'animal, par rapport à nous, est un corps très particulier qui est toujours vêtu de ses expressions, dont la peau est ornement, alors que nous, nous avons besoin d'un vêtement pour faire image ou d'un geste. Dans la nudité, c'est un geste qui transformera notre corps en une image. L'animal, lui, est toujours vêtu de ses expressions, alors qu'un homme a besoin d'un habit pour apparaître. Notre corps, à nous, a besoin d'autres sensibles pour s'exposer. Nous sommes un animal qui investit des images extérieures, qui revêt des idées ou des formes. Je vous renvoie, de ce point de vue, et je sais que c'est un livre que Frédéric aime beaucoup, au livre d'un jeune philosophe qui s'appelle Emanuele Coccia, C-O-C-I-A, un très beau livre qui s'intitule « La vie sensible » et qui propose quelques pages justement sur cette sorte de métaphysique du vêtement qui en fait s'appuie explicitement sur Portman pour comprendre le vivant comme image et reconnaître dans l'homme une capacité à ce qu'il appelle « faire peau de toute chose ».« Faire peau de toute chose ». Mais justement, c'est en s'appuyant d'abord sur l'apparence animale comme toujours déjà vêtu par ses expressions, qu'Emanuele Coccia déploie cette pensée-là. Le deuxième scientifique, auquel j'aimerais faire référence pour avancer dans cette pensée des styles animaux, ou des styles de l'être, à vrai dire, c'est donc Jacob von Uexküll. Bon, pensée beaucoup plus connue, qui a déjà beaucoup plus circulé, notamment parce que c'était un interlocuteur important pour Heidegger dans ses réflexions sur le monde, d'où la protestation d'Anne tout à l'heure en disant « pourvu que les agrégatifs aient pensé à lui dans une réflexion sur le monde animal ». Et le projet du Uexküll était tout autre que celui de Portman. Il ne s'intéressait pas à l'apparence, au faire-peau des animaux ou des hommes, mais à leur manière d'habiter un monde, une manière qui, pour chaque espèce, façonne un monde. Cette manière, donc, c'est la définition, pour n'importe quelle espèce animale et espèce par espèce, d'une façon de percevoir et d'agir, par laquelle l'espèce sélectionne dans l'espace ambiant des marques pertinentes, en construisant ainsi son milieu de vie et en laissant tout le reste dans l'ombre. Alors certains exemples de Uexküll sont très célèbres, comme celui de la tique notamment. C'est son exemple Premier, dans tout l'univers sensible, seuls quelques signaux intéressent la tique, un certain signal d'acidité, un certain degré de chaleur, etc., et forment son univers à elle, son monde. Dans la perspective de Huexcul, donc, la forêt n'existe pas. Ce qui existe, c'est la forêt comme milieu de vie pour le chasseur, ou la forêt pour le promeneur, ou la forêt pour le daim, ou la forêt pour la fourmi, c'est-à-dire la forêt redessinée par tel ou tel mode de perception, par tel ou tel mode d'habitation. Et tout le propos de Huexcul consiste à faire d'une espèce animale un sujet producteur de sens parce qu'elle redécoupe le réel. Alors je trouve là encore un appui intéressant pour une pensée élargie du style, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas seulement dans l'idée de chaque milieu de vie institué par une espèce l'identification d'un lieu ou d'un contenant, mais bien d'un style, un mode d'habitation, une façon de percevoir, une façon d'agir, comme le dit Huexcul. Un style, c'est-à-dire la manière caractéristique d'une forme, répétable et répétée, et qui attire l'attention sur sa propre intensité, qui surgit, comme une silhouette qu'on reconnaît au bout de la rue. Chaque forme de vie crée autour d'elle une configuration de relief et d'accent qui définissent une disposition durable, ce que Huexcul appelle, comme le rappelait Anne, une tonalité prospective, ce qu'on pourrait appeler, et là je repense à Ponge, une piste d'être. Comme un style, chaque manière d'habiter le monde, c'est-à-dire chaque espèce, laisse tout le reste dans l'obscur et découpe avec sûreté la surface du sensible. Et ce thème de la sûreté est tout à fait important. Huexcul a de très belles phrases sur la certitude qui anime les comportements animaux. Il ne dit pas que le monde de la tique est pauvre, sous prétexte que seuls quelques signaux soient pertinents à la constitution de son milieu. Il dit que ce monde est sûr. Il n'est pas pauvre, il est sûr. La beauté du propos de Huexcul, quand on le lit comme moi sans aucune compétence scientifique et qu'on y cherche quelque chose d'autre qu'à vrai dire ce qu'il dit, réside en fait dans la mise en lumière du côtoiement de la multitude des mondes animaux, tous liés entre eux, quoique réciproquement exclusifs et non communicants. Alors j'ai dit plus haut que dans sa perspective, la forêt n'existe pas. Ce qui existe, c'est la forêt du daim, la forêt de la fourmi, etc. Mais pour un regard stylistique, pour une attention qui a l'appétit de la variance stylistique de l'être, la forêt, c'est aussi l'espace qui conjoint tous ces mondes, qui met en présence cette foule de styles qui sont comme des variations attirantes ou repoussantes sur le nôtre, qui sont comme des possibilités du vivre. Et Huexcul décrivait comme ce qu'il appelait des promenades en des mondes inconnaissables, ces analyses du milieu de la tique ou du chien. Et dans nos propres opérations de pensée, c'est-à-dire ici de comparaison, le côtoiement de ces mondes qui devraient s'entre-ignorer devient une ouverture, l'ouverture d'une manière d'être à d'autres manières d'être, la chance d'être mis au contact non pas seulement d'autres choses ou d'autres êtres, mais d'autres styles, c'est-à-dire d'autres possibles de la vie. Et par conséquent, la chance d'éprouver aussi sa manière d'être comme une orientation dans la vie, comme une orientation particulière de la vie. Voir un autre être, en fait, c'est voir un autre style. Percevoir une forme comme une puissance, comme une possibilité de la vie, restituer le vivant à sa vibration de possible. Il me semble que c'est ça qui est intéressant dans toutes ces figurations littéraires ou poétiques, qui ne pensent le style qu'au pluriel, qui ne pensent les manières d'être qu'en foule, et c'est ce que des poètes comme Ponge ou Michaud ont vraiment magnifiquement figuré et rassemblé. Alors je voudrais finir justement sur la vertu de la littérature dans une démarche de pensée comme celle-là. Il me semble que cet intérêt pour les styles d'être est en fait un véritable parti pris sur la vie et qu'il est très présent ou très vif dans la philosophie contemporaine. Je le disais un peu plus haut, l'idée de forme de vie est devenue un véritable mot-clé. On la retrouve chez Foucault, chez Barthes, chez Rancière, chez Agamben. L'intérêt pour les formes de vie, je pense que vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, vous êtes des vrais philosophes, pour tous ces penseurs, c'est un intérêt pour la vie qualifiée qui prend sens pour eux dans une opposition à la vie non qualifiée, à la vie nue. Hein, la vie nue comme simple fait, si les choses sont dites aussi brutalement, d'être non mort. Et la vie qualifiée, en revanche, c'est la vie telle ou telle, la vie qui a pris forme, qui s'engage dans une forme, dans une valeur, qui est descriptible, qui est racontable, qui tient à un comment. C'est une vie dont le sens est tout entier contenu dans son mode, ou dans sa mode, dans son style. Et je crois que l'approche littéraire peut reprendre ici une certaine initiative. Enfin, disons, il y a des choses que la littérature permet de bien penser. Le temps, avec la question du récit. L'imagination, avec les pouvoirs de la fiction, sans doute. Et il me semble que c'est le métier, ou c'est le parti pris, disons, des spécialistes d'esthétique, de regarder cela, de vouloir voir cela, la façon dont une vie tient à ses formes. Les écrivains décèlent ces formes, ils les exposent, ils les pensent, et puis surtout, ils relancent vers nous cette dynamique stylistique du vivre. Donc je voudrais préciser cette façon dont la littérature prend les styles qui animent la vie en charge, et je reviens pour ça à Ponge. Parce qu'il me semble que Ponge a été vraiment, disons, c'est pour moi le poète des manières d'être, et celui qui a mis au jour de façon tout à fait exemplaire le mode de chaque espèce animale, et à vrai dire, pas seulement de chaque espèce animale. Enfin, il y a un beau livre de Jean-Christophe Bailly en collaboration avec un ami à lui, peintre, qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelle Gilles Ayot, et qui s'appelait « Tous les animaux, y compris les minéraux hein. ». Encyclopédie de tous les animaux, y compris les minéraux. Et ça, c'est un titre qui conviendrait tout à fait à Ponge. Donc il me semble que chez Ponge, c'était un véritable projet moral qui consistait à exposer ce que Montaigne appelait la forme maîtresse de chaque chose, de chaque espèce, de chaque règne. Et je vous renvoie tout simplement, par exemple, au travail de Ponge sur ces titres. Il y a un recueil tout à fait essentiel de Ponge qui s'intitule « La rage de l'expression ». La rage de l'expression, titre qu'il faudrait vraiment lire avec les yeux de Merleau-Ponty, puisqu'il s'agit de la façon dont chaque chose est une expression de la vie et de la façon dont le poète a la rage de ressaisir ou relancer cette expression de la vie dans sa propre expression pensée, parlée. Et dans une des pages des œuvres complètes de Ponge en Pléiade, on voit la liste des titres qu'il avait envisagés pour ce recueil qu'il a finalement baptisé « La rage de l'expression ». Et cette page manuscrite laisse entrevoir toutes les tentatives, les tâtonnements de l'écrivain qui cherchait l'expression juste, justement, l'expression juste des plis du réel et de la parole. Et les titres qu'il avait imaginés témoignent en fait de cette disposition particulière, de cette façon de considérer le réel, de le regarder et de l'habiter comme un univers de style. Je vous cite quelques-unes des formules proposées par Ponge. Les manières d'être, les façons d'être, les raisons d'être, le mode définitif, le genre définitif, les manies. Les manies, c'était une belle façon qu'avait Ponge de décrire le conatus, en fait. Par exemple, il décrivait la manie qu'avait l'eau de tomber, sa rage de pesanteur. Il a un très beau poème sur l'eau comme l'enragement de l'eau à aller toujours plus bas. Ou alors il a un très beau poème adressé à un arbre aussi où il défie l'arbre de faire autre chose que toujours la même feuille et hop, et encore la même feuille. Et essaye encore une fois, hop, toujours la même feuille. Donc cette idée des manies comme blocage aussi d'une forme d'être sur les limites de ses possibilités d'expression. Et le titre finalement choisi par Ponge est remarquable, hein, « La rage de l'expression », c'est l'obstination de chaque chose à lancer sa forme, à maintenir sa manière d'être, son expression, au sens de Merleau-Ponty, du Merleau-Ponty de la nature. Et puis c'est l'obstination du poète à relancer cette expression, cette idée fixe qui est au fond toute chose. Hein. Et là, c'est l'expression du Merleau-Ponty de la prose du monde. Ponge, en somme, exigeait que ses poèmes exposent et relancent la mode de chaque chose, le style d'existence que chaque chose institue effectivement dans le monde sensible. Blanchot l'a très bien perçu. Il a consacré à Michaud un très beau livre où il parle de Ponge. Et je vous cite juste une phrase consacrée à Ponge dans ce livre sur Michaud. Ponge attribue aux objets non pas des sentiments ou des intentions tirés de leur vague analogie avec les hommes, mais une manière d'être qui est leur règle et en accord avec laquelle est menée toute description exacte. Une manière d'être qui est leur règle et en accord avec laquelle est menée toute description exacte. Il y a là, je crois, toute une morale parce que l'attention au style d'être qui anime le vivant suppose en fait un accueil et une réplique. Quelque chose de l'empathie dont parlait Anne tout à l'heure. Celui qui veut voir avant tout ses formes, c'est aussi celui qui accepte d'être envahi par ces autres possibles de la vie. Ponge disait en préface à l'un de ses recueils, « Je propose à chacun l'ouverture de trappes intérieures, une invasion de qualité. » Une invasion de qualité. Et un peu plus loin, je ne vous ai pas cité, mais un poème sur le mollusque où il dit « Le mollusque est presque une manière d'être, c'est une qualité. » Donc je propose à chacun l'ouverture de trappes intérieures, une invasion de qualité. Et dans un autre registre, celui justement de la guerre des styles, Michaud se plaignait souvent d'être traversé par des passages de son père. Et je suis traversé par des passages de mon père. Et il y a un très beau recueil qui s'appelle « Plume » où il y a une section où Plume est dans sa chambre et sa chambre est tout à coup traversée par un train. Donc il y a ce sentiment voilà, que la vie est traversée, des trappes s'ouvrent vers d'autres phrasés de l'existant. Affronté donc à des conformations surprenantes, hein, comme cette surprise du vol qui traverse son champ de vision, l'individu attentif se sent déplacé dans ses propres articulations. Il est saisi par ses autres manières d'être comme par des pistes à suivre, des singularités à prendre. Les singularités dégagées par l'écrivain se trouvent d'ailleurs en quelque sorte relancées par le lecteur qui s'y éprouve lui aussi tout à fait autre. Donc le regard stylistique, c'est aussi celui qui s'engage sur d'autres pistes d'être. Et pour donner, disons, ma réponse idiosyncrasique à la question des puissances de la littérature, je dirais que la littérature, c'est le style des styles. C'est la forme de vie qui consiste à penser d'autres formes de vie, à les suivre. De ce point de vue, c'est une chasse, ou plutôt une poursuite. Et là aussi, je voulais vous parler très vite, et je suis contente que Kahn l'ait lu déjà, de l'entrée en scène du chevreuil dans le versant animal, donc de Jean-Christophe Bailly. Je peux peut-être faire passer, je vous enlève le livre. Cet essai donc, que Jean-Christophe Bailly a consacré à l'animalité a en commun avec la poésie de Ponge ou de Michaud, et puis avec, à vrai dire, toute une disposition de pensée, de ne pas poser la question de l'animalité à travers une structure de face à face, à travers une structure d'entre-regard. Mais justement dans une scène dynamique de poursuite, comme au cinéma. C'est très beau, cette poursuite. Il décrit la façon dont il s'est mis à suivre le chevreuil qui, tout à coup, au lieu de simplement traverser la route, s'est engagé sur la route la nuit. Et Bailly se décrit en voiture, suivant le chevreuil et comme un caméraman, enfin, je ne sais pas comment on appelle l'homme des projecteurs, mais suivant le chevreuil avec les phares de sa voiture. Donc les hasards de la fuite ont permis à l'écrivain de se tenir un instant en présence du chevreuil, de le suivre dans sa piste. Bailly précise qu'il a eu le sentiment, l'espace d'un moment, qu'il touchait là ce qu'il appelle une autre tenue, un autre élan, et il ajoute, est tout simplement une autre modalité de l'être. Il ne s'agissait pas de regarder la bête en étant réciproquement regardé par elle. Non, il s'agissait de suivre sa piste, de mimer son frayage propre, comme faisaient les chasseurs ou les dessinateurs de Lascaux, de suivre un animal dans sa puissance expressive et sémantique à lui. Alors, vous avez compris, dans mon vocabulaire, ça se dirait de le suivre dans son style, dans l'idée de la vie qu'est son style. L'animal apparaît ici comme une sorte de poche de comparution, mais immédiatement mise en mouvement. Une fuite dans la singularité qui, au mieux, nous tolère ou nous côtoie. C'est justement cette solidarité entre une forme et une idée que la question du style nomme, enfin identifie à mes yeux. Dans la méditation qu'un écrivain en fait, chaque apparence, chaque manière de se présenter est aussi l'ouverture d'une pensée, d'une façon d'habiter sémantiquement le monde, de lui donner sens. Donc l'animalité apparaît surtout comme un cas intense d'articulation entre les formes de la vie et la compréhension de la vie comme possible. Bailly, par exemple, insiste sur ce qu'il appelle cet autre monde que constitue une autre manière d'être. Et il le dit lui aussi, comme beaucoup d'essayistes contemporains, avec les mots et les catégories de Uexküll. Son livre se tourne vers la multiplicité de ces phrasés animaux. Alors, quand je pense à ce livre, je pense toujours à une même page, en fait, qui est une page merveilleuse consacrée à la girafe, qui expose tout l'étonnement de l'écrivain devant la sorte d'étendue des solutions trouvées par le vivant. Donc, il décrit avec émerveillement, en fait, la trouvaille morphologique qui permet d'envoyer le sang jusqu'à la tête de la girafe sans la faire exploser, en permettant au sang de circuler tout au long de cet immense cou. Donc, il décrit des systèmes de clapets et d'écluses qui permettent d'envoyer le sang jusqu'en haut sans faire exploser la tête. Et le livre dit et redit cette surprise, cette joie, en fait, de prendre acte d'une série infinie de dynamiques stylistiques. Je cite ici Bailly, « La surprise infinie qu'il y ait là un être et qu'il y ait là cette forme, si petite ou si grande, cette forme qui est aussi une tension et une chaleur, un rythme et un saisissement, de la vie a été attrapée et condensée, a fini par se trouver une place dans un recoin de l'espace-temps. » Tension, rythme, saisissement, ce sont bien les coordonnées d'un style. À nous de poursuivre le mouvement au seuil duquel il nous conduit, donc, et de comprendre ce que ce serait d'entrer dans ce phrasé-là. Ce qui s'y manifeste, et j'en finis dans une minute, c'est la force d'attraction de tout style d'être. Seule une attention qui accepte d'être attirée, d'être capturée par la pluralité de ces expressions du vivant, peut nous faire éprouver la singularité de notre propre manière et nous comprendre nous-mêmes comme style. Donc juste un mot de conclusion, il me semble que la force de l'expérience littéraire gît dans le fait qu'on ne se contente pas de savoir les manières de l'être, on les ressaisit. Je crois que quand on est animé par cet horizon d'une stylistique du vivre, il y a dans l'expérience littéraire en tant que telle une ressource insubstituable. La certitude que l'être est manière d'être et la vie forme de vie, cette certitude ne peut pas s'épuiser en une assertion, en une connaissance. Elle ne peut pas se contenter d'une déclaration. Elle ne devient ouverture au possible que si elle engage une pratique stylistique du monde. Alors, bon, j'ai pas peur des trop grandes déclarations, donc moi j'ai pris l'habitude d'appeler ça une vie attentive, la littérature comme vie attentive. Je crois qu'il y a là, dans les œuvres et le rapport aux œuvres, une puissance, un style d'être et de penser, celui qui consiste à voir le style, à vouloir voir le style, à vouloir le penser, le prendre sur soi, dans sa propre pratique. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Marielle.
Ma question, c'est sur, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut aussi faire le mouvement de retour, que tu le fais, mais peut-être implicitement ? Et ce que j'entends par mouvement de retour, c'est-à-dire... évidemment, tu dis le style, c'est la différence des styles, c'est aussi l'expression des styles, mais c'est donc l'expression des styles. C'est pas seulement la littérature comme vie attentive, parce qu'au fond, peut-être la vie est une vie attentive, enfin, l'attention est déjà une vie attentive, mais la littérature, c'est aussi l'expression des styles par un style. Mm-hmm. Et donc, ce que j'entends par mouvement de retour, là, dans la question qui m'est venue en t'écoutant, c'est le style de Ponge, le style de Michaud.
Oui,
si veux, comment est-ce que cette stylistique de la perception, cette stylistique ontologique, cette stylistique vitale, redevient une stylistique littéraire? C'est ça ma question, au fond.
Oui.
Et comment tu refais retour vers l'analyse des textes, enfin, un peu tout bêtement,
oui. Hein,
c'est-à-dire, au fond...
Alors, j'ai touché...
Comment observes-tu Ponge, oui. Comme Ponge observe l'hirondelle?
Oui, j'y ai touché beaucoup trop rapidement, mais en essayant de mettre en regard, disons, deux...
L'animal Ponge.
Deux styles. La construction systématiquement agonique chez Michaud.
Oui, voilà.
Et puis au contraire le sentiment du, enfin disons le désir de saisir une idée fixe chez Ponge. Alors ouais. En termes de stylistique littéraire, ça s'inscrit dans une certaine syntaxe chez Ponge, évidemment celle de la répétition, mais aussi celle de l'infinitif.
D'accord.
Alors que chez Michaud, ce sont des formes ce sont toutes les formes grammaticales de l'individuation, avec la processualité que ça implique, etc. Mmh. Enfin, on pourrait regarder d'un peu plus près, hein, si ça te fait envie. Mais disons, la seule façon dont j'y ai touché, là, aujourd'hui, c'était en mettant en valeur ces deux prises en charge par l'expression d'une compréhension stylistique des choses. L'un qui va du côté d'un désir de saisir l'idée fixe de chaque chose, alors avec sa prosodie particulière, lui, je veux dire, hein, pas seulement la chose, d'où la rage de l'expression chez Ponge. Donc c'est toujours un travail sur la redondance, en fait, chez Ponge. Et puis l'autre, dans un travail, au contraire, sur les luttes d'individuation, et donc sur la catégorisation. Chez Michaud, ça passe par tout un travail sur la catégorisation, le cheval, le singe, quand-il, etc., le présent gnomique, enfin...
Oui, je pense que le moment de retour est très important, et aussi, d'un point de vue historique, pour rejoindre une thèse forte qu'a défendue Anne, c'est aussi cette idée que, disons, dans les années 60, pour être un peu massif, vous voyez quand même, tout comme, disons, dans le texte, et enfin, bon, je caricature, hein, mais d'une certaine manière, la définition de l'oiseau chez Ponge... Cette surprise dans le ciel, hein, je ne sais plus exactement. Au fond, on aurait dit, au fond, c'est une manière de dire la littérature comme surprise dans le texte,
oui.
Comme surprise dans la langue.
Oui, oui, oui.
Et là,
oui.
Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, la surprise dans la langue redevient une surprise dans le ciel. Enfin,
oui,
on doit dire dans
oui,
le monde
il
réel.
Me semble. Oui, oui, parce que justement, le texte intitulé « Dans le style des hirondelles », il file, plus qu'une métaphore, une association, parce qu'on ne sait plus qui est le comparé de qui. Entre le vol et la signature. Donc, évidemment, une lecture formaliste dirait « Ah oui, donc l'hirondelle figure le travail
le
de la plume sur la page, etc.
Ouais. »
Alors que c'est vraiment une entre-expression. D'où tout l'intérêt de la notion d'expression chez Merleau-Ponty, puisque justement, c'est l'écriture littéraire comme ressaisie d'une dynamique stylistique qui est celle du réel, mais qui n'est perçue comme dynamique stylistique, qu'une fois qu'elle est relancée, justement.
Oui, alors évidemment, ça m'a passionnée. J'aime beaucoup aussi comment, parfois, on a des termes communs dans un style extrêmement différent. La notion, tu terminais sur la notion de tension, des choses qui me parlaient
oui,
beaucoup.
Oui, puis qui étaient très en écho avec ce que tu avais dit, surtout sur cette respiration empathie esquive.
Et alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, évidemment, c'est la signature selon son espèce des cieux. Hein, je reviens sur cette expression. Et donc la question du style de l'espèce. Je crois que selon les écrivains, et je me demande parfois, mais je n'en suis pas sûre, s'il n'y aurait pas une toute petite différence entre poésie et prose, mais je m'aventure difficilement là-dedans. Je me demande si les romanciers, justement, à cause de ce pouvoir d'incarnation et de personnalisation dont on a parlé dans le récit à la première, comme d'ailleurs à la troisième personne, ne vont pas aller vers le style de l'individu dans l'espèce, pas systématiquement, mais peut-être parfois plus que dans la poésie.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Hein oui, et...
Qui vaut plus
l'espace. Oui, puisqu'il s'agit d'avoir l'acteur d'un récit, par exemple, ou le référent d'une histoire.
Alors l'individu pouvant...
ne raconte pas d'histoire.
Ouais. Et l'individu pouvant finir par dire l'espèce. Je pense à la dernière Art de Genevoix. On a le cerf rouge, qui est un nom, qui est individualisé, qu'on suit tout le temps. Et en même temps, c'est le comble. Hein. Mm. C'est le comble de l'espèce. Mm. Où je pense, alors là, à contrario, à Béatrice Beck, l'enfant chat, où on suit le style de sa chatte, hein, qui devient un peu humaine. Enfin, c'est compliqué. Et on est vraiment dans un chat très, très, très particularisé.
Mais c'était une hypothèse de Huexcul, d'ailleurs, de ne pas seulement faire d'une espèce un sujet, producteur de sens dans le découpage du monde, mais aussi de chaque individu, de chaque espèce, un sujet. C'était à l'horizon de sa réflexion. Ouais.
Bon, j'ai donné aussi une signification politique à son travail.
Oui,
De style, justement.
Oui. La difficulté de Ponge, c'est toujours cette association dynamique chez lui entre les choses et les mots. Mmh. Donc c'est le parti pris des choses compte tenu des mots, dit-il. Et il y a toujours ce désir qui l'a mis en débat, en fait, notamment avec la phénoménologie. De penser que prendre le parti des choses, c'est affûter son langage. Et que pour nous, ça ne peut pas se passer autrement.
Alors moi, je voulais revenir sur un point qui me pose un petit peu problème. Alors je ne sais pas si c'est chez Portman, cette histoire d'apparence inadressée qui est extrêmement intéressante, hein, puisque ça nous ramène vers l'intensité et la puissance du vivre. À un moment, tu disais que l'animal est toujours un peu vêtu de ses expressions, naturellement, on dirait, hein, par ses plumes, ses poils, ses couleurs, etc. Alors que nous aurions besoin d'un habit. Moi, je me demande quand même si on peut faire une telle distinction et si, par exemple, notamment le visage n'est pas l'équivalent pour nous des plumes, des couleurs, des poils, du hérissement. Tu vois. Je pense que même dans la nudité, au-delà du geste, on a une capacité expressive extrêmement forte, une capacité posturale et puis capacité faciale.
Oui, alors moi je choisissais le geste plutôt que le visage pour permettre de se tenir un peu en deçà de la question du sens ou de l'expression au sens avoir une expression gaie ou etc. Pour mettre en valeur surtout cette façon différentielle d'avoir une peau, c'est-à-dire d'avoir une image pour les animaux et pour les humains. Le visage, il me semble qu'on est déjà dans un autre type d'interrogation.
Avec Darwin, Darwin montre très bien quand même qu'il y a une correspondance entre les émotions.
Si on cherche à dire comment se vêt une bête et comment se vêt un homme. Alors pour le coup, le visage égalise en fait les conditions.
Non. Oui, sauf que le visage de l'un est vu par l'autre et voilà. Donc c'est vrai quand même que on peut décider de voir un visage ou pas. Mm-hmm. C'est ça aussi le propre de la relation interhumaine, c'est-à-dire que on peut peut-être pas décider de voir ou non des plumes ou des poils, mais on peut décider de voir un individu ou pas. Mm-hmm. On peut décider de le voir comme individu, de le regarder comme, ou de ne pas le regarder comme. Mm-hmm. Et ça, c'est vrai que je pense que ça fait quand même, du coup, c'est vrai que la nudité dans la vie humaine prend ces deux sens-là, mais qui sont...
Moi, je dirais, y compris pour les bêtes, c'est-à-dire que l'homme, donc on peut décider de nier ou de ne pas nier la condition d'humain à un autre humain en voyant son visage ou en ne voulant pas le voir, mais on peut aussi décider que les bêtes, certaines bêtes, ont un visage ou pas. Hein.
Mais justement, je disais, à partir du moment où on passe à la question du visage, nous sommes égaux, hommes et bêtes. C'était une réflexion simplement sur le seuil, disons le corps humain, c'est ce qui a besoin d'un autre sensible pour apparaître.
Moi, sur cette question de l'apparence inadressée, puis après, peut-être on devra quand même s'arrêter, je pense qu'effectivement, ça renverse la question phénoménologique, parce que la question phénoménologique, c'est voir les phénomènes. Les choses sont des phénomènes, quand même, dans une corrélation avec un regard. Et là, non. Les choses sont des phénomènes parce qu'elles sont elles se phénoménalisent d'elles-mêmes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cet entre-deux, entre la phénoménologie qui en fait un objet de connaissance intentionnel pour un sujet, et une sorte de fonctionnalisme vital qui en ferait juste une fonction biologique, du style parure sexuelle, etc. Bon, là, non, il y a une intensité de l'apparence qui est quand même vitale, qui ne dépend pas de le sujet qui observe, et en même temps, elle est vitale sans être réductible entièrement à la fonction. Même si on peut bien penser qu'il y a de la fonction. C'est-à-dire,
Oui,
oui, ben Portman est plus précis. Il dit, c'est une fonction de la vie que d'apparaître.
Voilà, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Mais en même temps, si c'est une fonction de la vie, on a envie de lui dire en bande darwinien, laquelle, which one? Parce que quand même, c'est, est-ce que c'est se camoufler? Est-ce que c'est se reproduire? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Je veux dire, c'est bien gentil de dire c'est une fonction de la vie. Mais un biologiste, il dira laquelle? Prochain nous rappelait, il y a deux fonctions de la vie, c'est se reproduire et éviter la mort. Quoi. Enfin, bon,
Oui, mais Portman ajoute apparaître. C'est-à-dire, il n'en fait pas un aspect de ses...
Pas. D'un point de vue biologiste, il ne peut pas ajouter des fonctions.
Mais pourquoi non?
Parce qu'on lui dira, si tu prends fonction, le mot fonction, c'est quand même, si c'est vital, il faut quand même être clair. La vie dans un milieu est d'abord pour tâche de se continuer.
Mais moi, je dirais que la notion d'apparence inadressée est beaucoup plus riche en monde, justement, et perturbante et troublante que la notion de fonction pure. Et quelle rencontre.
Il y a un moment où il faut prendre le mot vie, il faut prendre le problème que pose le mot vie. Si on dit fonction vitale, il faut alors avoir une théorie très forte de la vie qui permette de dire ce que je pense, en un sens. Elle n'est pas seulement définie par ses fonctions génériques de continuation et de reproduction. Parce que c'est vrai que sinon on va dire, OK, vous pouvez rajouter des fonctions, mais vous ne serez pas dans... Ça va être l'arbitraire. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la connaissance pure ne serait pas une fonction de la vie? Et au fond, Aristote disait ça. Chaque chose a sa nature. Pour le vivant en général, c'est de se reproduire. Pour l'esprit humain, c'est de connaître. Et donc, le bonheur... Donc, au fond, on retombe dans un finalisme élargi à l'Aristote. Et c'est un peu ça. Imiter est une fonction... L'homme désire naturellement imiter. L'homme est un animal politique. Mais le biologiste contemporain, il ne va pas dire ça comme ça. C'est le contraire. Il va dire, si l'homme est un animal politique, ce n'est pas parce que le politique est une fonction d'un vivant particulier. Parce que le politique a une fonction vitale en général. C'est-à-dire survivre, se reproduire. Donc la question, elle est beaucoup plus terre à terre. Mais ça ne veut pas dire qu'un darwinien strict aurait raison. Mais je pense qu'il faut prendre cette question-là au sérieux. On ne peut pas dire, justement... Parce que sinon, on revient à Aristote. C'est-à-dire, effectivement, l'homme désire naturellement imiter. C'est le début de la poétique. Mais à ce moment-là, on
mais
a
là,
une théorie
il n'est question
de
ni, de, ni de tendance, ni de... Il me semble que... Enfin, ce qui est intéressant chez Portman, c'est la façon de se dégager totalement du débat gratuité-dépense.
Oui. Mais c'est une chose mais de dire qu'on le fait, et c'est autre chose d'y arriver. Complètement. Ouais. Parce que c'est un problème philosophique vraiment quand même assez...
Considérable.
Ouais. Et ça joue quelque chose sur ce qu'on veut dire par vie.
Mais c'était quand même considérable de sortir les animaux de la pure fonctionnalité. C'est énorme.
Ouais.